Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Évidemment, bon week-end, vous le savez, de quoi je me mêle. C'est votre rendez-vous tech de la fin de la semaine que vous pouvez retrouver dès le vendredi en exclu, en podcast audio, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube. Et puis après, tranquillement le week-end, diffusé sur BFM Business Radio Télé. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Avec au sommaire de ce de quoi je mêle, eh bien toute l'actualité de la semaine. Et vous savez quoi, non pas un module, mais deux modules d'actu. On va se faire plaisir avec nos spécialistes que je vais vous présenter dans un instant. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc le club de la presse IT, x2, Nicolas Lelouch est avec nous cette semaine. Salut Nico.
Salut François, ravi d'être ici.
Trop longtemps.
C'est vrai que ça fait quelques temps, on s'est peut-être pas vu depuis le CES.
Et j'en ai bien l'impression.
Et ben, je suis très content d'être de retour dans De quoi je me mêle aujourd'hui, en bonne compagnie en plus.
Voilà, l'un des piliers de Numérama, Nicolas Lelouch.
Je le reconnais pas sur son Apple Vision Pro.
Tu le reconnais pas?
Ah non, mais j'ai des petits yeux, non.
la marque du masque.
Tiens, le Vision Pro, tu t'en sers toujours ou pas? Ou est-ce qu'il est rangé dans le tiroir?
Je m'en servais tout encore après le test. Le truc, c'est que je l'ai prêté à mes confrères de Frandroid qui sont en train de sortir leur test.
Donc là, il est en train de faire le tour de toutes les rédactions.
En toute sincérité, je fais pression depuis 10 jours pour le récupérer.
Reviens.
Parce qu'il y a des mises à jour là qui arrivent, non?
Il y a potentiellement des bonnes mises à jour qui vont arriver dans les prochaines semaines et j'espère le récupérer cet après-midi, au moment où on enregistre, peut-être demain, peut-être lundi. Mais
pour te replonger dedans.
Si tout va bien. Ça va pas tarder à être de nouveau le mien.
Et oui, on remercie encore Nico qui nous avait apporté le masque. C'était dans Tech & Co. Voilà, quelques jours après sa sortie aux États-Unis. Olivier Frigara, comment ça va, camarade?
Ça va bien, merci de l'invitation.
Voilà, Olivier, on refait le Mac, qu'on ne présente plus. La référence en termes de podcast dédié à Apple. Puis pas que ça, maintenant tu fais de la F1 aussi. Enfin, il y a toute une...
Je suis un peu tout seul aussi, il faut dire.
Une industrie du podcast. C'est l'industriel du podcast.
Oui, bah, la F1, c'est ma grande passion.
C'est ta grande passion.
Avec le Mac, voilà. Bien sûr. Mais, on va parler de F1 aujourd'hui. Mais...
Voilà, on va commenter ensemble l'actu. Il y a plein de choses intéressantes, mais on va commencer par cette date. Ce sera le 10 juin. Préparez-le, notez-le sur vos tablettes. Le 10 juin, évidemment, on évoquera la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple. Alors bon, pourquoi annoncer cette date? Finalement, bon, c'est pas très grave, hein, il y a une WWDC, ça sera pas la première ni la dernière. Sauf qu'elle a une petite saveur particulière, cette WWDC. On est en droit d'attendre beaucoup de choses concernant l'intelligence artificielle. Et visiblement, les promesses pourraient être tenues parce que voilà, chez Apple, ça commence à dire, vous allez voir, cette WWDC, ça va être génial, top, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On va avoir une claque?
On parlait de l'Apple Vision Pro tout à l'heure avec Nico. C'était la grande nouveauté l'année dernière de l'édition 2023, hein, alors que tout le monde avait les yeux braqués sur ChatGPT et l'IA générative, que toute l'industrie de la tech essayait de répondre à ChatGPT avec son propre moteur d'IA générative. Tous, sauf Apple. Alors, un an après, presque un an et demi après, il est peut-être temps qu'Apple nous sorte quelque chose. Voilà, donc c'est surtout vers l'IA qu'on attend une réponse d'Apple.
L'IA générative, non, parce que c'est vrai que l'IA, il y en a déjà dans l'iPhone. Oui, il y a plein de trucs, les photos.
L'IA, c'est un terme qui englobe plein de choses. C'est vrai que l'IA générative, on pense plus à une réponse à ChatGPT, on pense plus à une réponse à Midjourney, à ces outils de génération.
Un Siri moins bête.
Mais c'est vrai, un Siri moins bête, évidemment, il est temps de changer, Siri. Hein,
on ne
pas rester. Moi, je suis utilisateur des deux, de Siri à la maison et de ChatGPT au quotidien. L'écart, il commence à se faire sentir et il est de plus en plus
piquant pour Apple. T'as l'impression que c'est un grabataire qui est au bout du rouleau.
C'est un peu ça. L'enjeu pour Apple n'est pas forcément de mettre une claque. Personne, je pense, ne s'attend à ce qu'Apple dévoile des outils qui ringardisent ChatGPT, Google Gemini et tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie. Par contre, l'enjeu pour Apple, c'est de rattraper son retard, aussi bien d'un point de vue des utilisateurs, pour leur prouver qu'Apple est capable d'innover sur cet aspect-là et d'intégrer des fonctions qui intéressent les gens à ces produits, et aussi du point de vue des investisseurs qui commencent un peu à s'inquiéter. Mmh. On voit dans le monde, dans le petit monde de la bourse, des grandes entreprises tech, que Apple est l'entreprise qui a un petit ralentissement de croissance, notamment parce qu'on se demande si Apple va être capable de résister à la montée de l'IA. Est-ce qu'Apple va être capable d'être un des acteurs de l'IA? Donc pour eux, c'est vrai que Apple est une marque qui, à part sur certains aspects, ne communique pas en avance sur ce qu'elle va faire. Et dans sa manière de parler de l'IA depuis quelques mois, on sent qu'il y a cette priorité-là, parce que Tim Cook lui-même dit, vous allez voir, on vous dira plus tard cette année.
On commence à faire chauffer la marmite, quoi. Avant de servir le plat, on commence à dire, ça, regardez, c'est en train de... ça se cuisine.
Exactement,
là.
On a Greg Josiah, qui est le vice-président marketing d'Apple, qui présente une keynote absolutely incredible, avec des majuscules sur ces deux mots, qui fait AI, donc artificielle intelligence. Donc il y a une volonté de dire on arrive, ne vous inquiétez pas, mais personne ne sait vraiment sous quelle forme ils vont arriver.
En revanche, Olivier, avec tout ce battage, etc., ils ont intérêt à nous sortir du lourd, parce qu'autrement, ça va être encore une fois une déception. Et tu le disais, les marchés financiers vont mal réagir. Donc c'est compliqué là. Hein. On dit oui, vous allez voir, ça va être absolument incroyable. Il faut tenir après la promesse.
Même si Apple ne devenait pas un géant de l'IA, ça ne l'empêcherait pas de vendre des millions d'iPhone tous les ans, d'avoir des services. Enfin, je ne pense pas que ce soit non plus... Apple peut rater la coche de l'IA. Maintenant, pour eux, c'est important aussi de ne pas dépendre des services des autres et d'avoir des services maison.
Pour moi, Apple ne peut pas rater la coche de l'IA. Apple ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu, tu sais, dans Refait le Mac pour les 40 ans, on en avait parlé ici du Mac, Bertrand Serlé, qui est le papa, un des rares papas français de Mac OS X. Et sa seule inquiétude pour la mise Apple, c'est qu'Apple a raté, je cite, le virage de l'IA générative. C'est-à-dire qu'au moment où il aurait fallu commencer à actionner quelque chose et commencer à intégrer des fonctions avancées d'IA générative dans iOS, ils ne l'ont pas fait. Ouais. Et aujourd'hui, les dernières rumeurs qu'ils se disent, c'est qu'ils sont tellement en retard qu'ils prendraient les fonctions de Gemini, de Google. Donc c'est un sacré aveu d'échec. C'est de la rumeur. Hein. On sait qu'ils discutent aussi avec OpenAI, avec pour ChatGPT, mais
Anthropique aussi, je crois.
Anthropique, avec Baidu en Chine.
Baidu, etc. Donc, ils ont raté le coche parce qu'ils étaient effectivement très concentrés sur l'Apple Vision Pro, qui lui aussi a besoin, et tu le sais, des fonctions avancées de IA générative. Bref. Donc, Apple a raté ce virage. Et on s'attendait toujours à ce qu'Apple soit pas en avance sur les tendances du marché, puisqu'ils opèrent le virage au bon moment généralement. Est-ce que c'est le bon moment de le faire maintenant ? Quand on discute avec les responsables d'Apple, ils nous disent « Oui, effectivement, on n'est pas les premiers, mais est-ce que c'était le bon moment de le faire il y a un an et demi ? Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de confidentialité de données, en termes de fake news. Nous, si on veut faire quelque chose, un outil d'IA, on veut qu'il soit vertueux. » Ok, bon, on va voir, on aura la réponse, ça arrive vite. L'enjeu, c'est que, effectivement, on le voit, dans de plus en plus de concurrents d'Apple, tu as parlé de Samsung tout à l'heure ou d'Android avec Google.
De Samsung et d'IA tout à l'heure.
On voit qu'il y a des fonctions implémentées au cœur de l'OS. Et on ne peut pas se permettre juste d'avoir de l'IA cachée, entre guillemets, parce que je peux faire un copier-coller, un détourage automatique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc Apple a besoin d'implémenter des outils d'IA. La rumeur semble dire que, de manière générale, ils utiliseraient l'outil Gemini. Et apparemment, et comme tu le disais très bien tout à l'heure, ils commencent à diffuser quelques informations comme quoi, en parallèle, ils travaillent à leur propre outil qui correspondrait plutôt à leur vision de l'IA générative qui serait un peu plus vertueuse, à savoir qui serait pas générateur de fake news et qui pourrait respecter le mantra de Tim Cook, à savoir la confidentialité et la privacité.
Alors Nico, on ne sait pas tout là-dessus, parce qu'évidemment, Apple est toujours très secret, mais les rumeurs, si elles se confirment, et si Apple fait appel à Google pour avoir son IA génératif, ça serait quand même assez étonnant, parce qu'on sait qu'Apple aime bien tout gérer. On l'a vu avec les processeurs, pendant des années, ils ont travaillé avec Intel, et puis petit à petit, ils les ont mis dehors. Qualcomm, pareil. Alors, ils ont toujours besoin de Qualcomm, mais s'ils peuvent s'en séparer en créant leur propre puce réseau, ils le feront. Là, c'est bizarre, on sent qu'il y a une espèce de notion d'urgence, du style « les gars, on n'est pas prêts ». Appelez-moi un sous-traitant, quoi. Et il faut qu'on arrive à avoir quelque chose, malgré tout, qui tienne la route.
Et il y a aussi des précédents. On a tous en tête Apple Plan, qui a été une volonté d'aller très vite s'émanciper de Google et qui a donné un échec industriel, au moins sur le démarrage. Aujourd'hui, ça a peut-être rattrapé son retard. Ce qui est intéressant, on l'a vu ces derniers mois, c'est qu'Apple publie, on pense qu'Apple est une marque qui ne fait jamais de recherche publique. Non, Apple est présent sur des plateformes de recherche, publie des essais, et ils ont publié plusieurs modèles de langage publiquement, dont certains capables de reconnaître des images, certains capables de générer du texte. Donc Apple a développé ses propres outils. La question, c'est si Apple arrive vraiment à un accord historique avec Google, qui consisterait à faire de Google Gemini le modèle de langage de l'iPhone. Ça voudrait dire que les enquêtes de qualité interne d'Apple sont arrivées à la conclusion que leurs modèles de langage maison sont voués à l'échec ou à la critique. Ce qui serait d'une certaine manière un aveu d'échec, mais qui, d'un point de vue de l'utilisateur, voudrait dire qu'on aurait des fonctions fonctionnelles dès le départ. Donc il ne faut pas non plus s'inquiéter. Il y a une autre possibilité aussi qui est évoquée dans la presse américaine ces derniers temps, c'est que cette histoire de partenariat avec Google ne serait pas forcément... Un duo Apple-Google, mais plutôt la possibilité, comme dans les réglages de Safari avec son moteur de recherche par défaut, de choisir son modèle de langage par défaut. Donc Apple pourrait se positionner comme on voulait choisir entre Google Gemini et GPT-4.
Oui.
Donc il y a plein d'interrogations. Ce qui a l'air de se dire...
Et en plus, ça leur permettrait d'être un petit peu plus sage par rapport à la réglementation.
Oui, déjà, d'un point de vue monopolistique, ils ne créeraient pas de situation compliquée avec Google. Et au-delà de ça, ils pourraient mettre sur le dos d'un autre ce qui ne va pas sur l'IA générative, tout en se concentrant sur des fonctions maison. Sur la photo, ils ont pas mal de retard. Ils sont forts sur la photo. Moi, je suis toujours impressionné par l'outil de recherche d'Apple Photo, qui est capable de retrouver un pont, moi et un chat, un truc dans le genre.
Et moi, je trouve que Google Photo est plus fort quand même.
Google Photo est encore plus fort, mais Apple fait des choses vraiment fortes. En plus, c'est local. Donc, je pense qu'il y a encore plein d'axes d'amélioration de ce point de vue-là. Sur les résumés d'un message, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en local avec un modèle de langage Apple. Maintenant, sur la génération de textes plus complets, sur un super Siri, peut-être que l'utilisation de GPT-4 ou de Google Gemini est la solution.
Alors, moi, j'interprète les choses... Alors, effectivement, tu as raison, et je le disais en préambule, ça peut être considéré comme un constat d'échec pour Apple d'adopter Google. Tu disais aussi Google...
Je ne le vois pas forcément comme un échec. Hein. Je le vois plus comme une prise de conscience et quelque chose qui servirait finalement...
Moi, je dirais comme un constat d'échec. Moi, j'assumerais ce fait-là. Mais, et puis après tout, ça peut arriver. Hein. Il n'y a rien de dramatique à cela. Mais moi, ce que je vois, c'est plus une attitude opportuniste d'Apple. On sait que Google est un outil qu'utilise et paye beaucoup d'argent chaque année, plusieurs dizaines de milliards d'euros, de dollars plutôt, pour intégrer Google au cœur d'iOS et de Safari notamment. Il pourrait très bien intégrer Gemini. Et d'un autre côté, les gens de Google se retrouvent avec un parc installé de 2 milliards de personnes, grosso merdo, et ce qui n'est pas négligeable pour générer de la donnée et rendre plus efficient le moteur de Gemini. Donc ce serait purement opportuniste parce qu'ils continuent à faire leur propre virage, tu le disais, avec leurs propres outils. Ce qui est intéressant, effectivement, tu l'as dit, c'est qu'on a vu qu'Apple, depuis quelques mois, commence à parler et commence à communiquer. Pour une entreprise qui ne parle jamais, y compris quand on fait des études et qu'on les publie, Apple ne publie jamais rien. Et là, il publie des choses. Il y a eu d'abord Ferré, qui est apparu au mois d'octobre, au mois de novembre de l'année dernière. Ce qui est intéressant avec Ferré... Ce qui est intéressant avec Ferré par rapport à Gemini, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire Gemini, c'est vraiment le gros moteur qui nécessite une infrastructure monstrueuse. On a vu les annonces d'NVIDIA il y a 15 jours, avec des milliers de serveurs et des milliards d'investissements considérables. C'est-à-dire que si demain, Apple voulait ressortir son Gemini, il ne pourrait pas. Parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour pouvoir le faire tourner. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose lorsqu'ils ont sorti Siri. On se disait, mais pourquoi ils sortent Siri sur l'iPhone 4S et pas sur tous les autres iPhones avant ? Parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure pour la faire tourner.
Ils n'avaient pas la capacité serveur.
Donc là, ils se retrouvent avec la possibilité de disposer d'une infrastructure clé en main. C'est celle de Google. Logiciel et matériel. Et d'un autre côté, Ferré permettrait de faire tourner un moteur d'IA localement dans l'iPhone. Et ça, c'est vraiment la vision d'Apple. C'est-à-dire, elle est virtueuse, on ne va pas taper dans les serveurs, on ne va pas exploiter vos données.
Et on respecte un petit peu la notion de vie, sécurité sur de la vie privée.
Tout en exploitant toutes les capacités du Neural Engine, qui n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui.
Ferré, ce serait le nouveau Siri, finalement, si j'ai bien compris.
Non, c'est le modèle de langage. De la même manière que quand on parle de Google Gemini, il faut faire attention. C'est la faute de Google, hein, c'est eux qui ont créé cette confusion. Il y a à la fois le modèle de langage Google Gemini, qui est concurrent de GPT-4, et il y a Google Gemini, le service qui est concurrent de ChatGPT. Là, ce qu'on dit, c'est pas qu'Apple va utiliser le service, ils utiliseraient le modèle de langage.
Tout à fait.
Mais ils pourraient coder ce modèle de langage pour lui dire « tu t'appelles Siri ». Donc le Gemini à la sauce Google pourrait devenir Siri et répondre à la manière d'Apple.
Pour rendre un peu plus intelligent Siri, comme c'est déjà le cas, on peut rendre plus intelligent Siri en tapant dans ChatGPT.
Et il peut y avoir une forme locale de Siri qui utiliserait justement ce modèle de langage Ferré, qui serait capable de faire tout ce que fait Siri aujourd'hui en mieux directement avec la puce de l'iPhone. Et dès qu'on lui demande de rédiger une rédaction sur l'histoire de Napoléon, eh ben, il va puiser dans les informations de Gemini, Napoléon, et il va être capable de générer ce contenu-là en accédant au serveur de Google. Donc la possibilité n'est pas folle.
Ce qui est intéressant, on sait que les puces Apple ont une vraie valeur ajoutée par rapport à ça et par rapport au reste du marché. L'avantage d'être, même si aujourd'hui ça leur cause des soucis avec le ministère de la Justice américaine. Mais maîtriser le logiciel et le hardware, c'est un avantage lorsqu'on veut vraiment optimiser des puces pour faire de l'IA. Ce qui est intéressant, tu le disais aussi, c'est qu'Apple a publié des études récemment sur un langage plus large, qui serait un concurrent clair de Gemini, qui s'appelle MMA, c'est le nom de code aujourd'hui. Et c'est un développeur d'Apple qui l'a publié, qui a fait des tweets à long, large et en travers. Je crois qu'il s'appelle Mackenzie, elle est sur X et suivez-le. Et en fait, il monte son modèle. Il y a une démo où on voit en gros une table. Sur cette table, il y a des bières, je crois. Il y a à manger, à boire. Il y a un menu. Et en fait, MMA est capable de deviner en gros l'addition. Voilà,
ça montre. Okay. C'est de la reconnaissance d'image.
Voilà. Et là, on est vraiment. Et en gros, le développeur, le patron de cette division d'Apple, explique qu'il serait déjà au niveau de Gemini en termes de puissance. Après, il faut avoir l'infrastructure pour le faire tourner derrière. Ils ne l'ont pas, c'est clair aujourd'hui qu'ils ne l'ont pas.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'Apple va travailler là-dessus. Ils doivent mettre les moyens, forcément.
Ils ont peut-être mis un peu tard, c'est ce que disait Olivier. Je pense que leur principale erreur, c'est d'être parti trop tard. C'est de ne pas avoir anticipé la tendance.
Et de ne pas être prêt pour l'échéance de la WWDC.
Ils ont compris rapidement que quand tout a paru, ils ont compris qu'ils ont raté le coche et qu'il fallait investir. Et ils ont investi. Mais du coup, ils sont partis avec 2-3 ans de retard sur OpenAI et sur Google, sur la même chose.
En soi, ce n'est pas vraiment gênant. Non, quand tu vois avec toute la tendresse et la sympathie que je peux avoir pour un Mistral qui ont quand même infiniment moins moyen qu'un Google ou qu'un OpenAI où je vais pour travailler, quand tu vois la qualité de leur travail aujourd'hui, la puissance de leur moteur, on se dit qu'un Apple avec quelques milliards qu'ils ont derrière, il y a capacité de rattraper son retard. Mais ce qui est intéressant avec MMA, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'aller et d'attaquer les ChatGPT ou les Gemini sur leur terrain. Donc ça peut être pour moi opportuniste un temps d'utiliser les outils de Google et demain basculer sur autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est la déclaration d'un des anciens d'OpenAI, aujourd'hui qui est un pont de NVIDIA, qui dit c'est quand même intéressant de voir qu'une entreprise qui communique jamais une sorte des études, avec des études qui sont hyper pointues, qu'on voit rarement dans le domaine de l'IA, qui vont très loin en matière de privacy, ça n'existe pas. Et c'est Apple qui ne communique pas et qui fait cette étude. À mon avis, Apple is back, suivez ça. Et c'est NVIDIA qui le dit. Quand même
c'est intéressant.
C'est aussi un moyen d'aller chercher les talents.
Par contre, il faut l'infrastructure. Par contre, il faut mettre tout ça en place. Et ce qui est intéressant, tu disais qu'ils rattrapent le retard. Cette année, je crois qu'ils ont racheté près d'une trentaine de startups autour de tout ce qui est vraiment efficient. Toutes les nouvelles tendances en matière d'IA pour justement ne pas rater le coche et prendre un coup d'avance à nouveau. Et c'est Apple aujourd'hui qui rachète le plus de startups en matière d'IA dans la Silicon Valley aujourd'hui. Donc voilà.
Rendez-vous le 10 juin. On verra bien ce qui sera annoncé parce que c'est la conférence des développeurs. Il n'y aura rien de vraiment concret. C'est-à-dire qu'on aura quelques bribes d'informations. Et après, tout ça arrivra avec le nouvel iOS 18 qui sera sur le prochain iPhone 16. Il sortira à la rentrée. Enfin, il sera aussi sur les autres téléphones, mais ça va être intéressant de voir aussi si Apple va communiquer sur peut-être des nouveaux processeurs sur les iPhone 16, peut-être plus.
C'est ce qu'annoncent les rumeurs.
Plus optimisé pour l'intelligence artificielle, comme l'a fait Samsung d'ailleurs avec le S24. Concernant Apple, autre actualité, il y en a deux, c'est le DMA. Vous savez, Apple est obligé de se plier à la réglementation européenne au sujet du store et de plein de services, d'Apple Pay, etc., etc. Et puis d'un autre côté, aux États-Unis aussi, ça commence à gueuler, si je puis me permettre l'expression, et notamment le gouvernement américain qui commence à pointer du doigt Apple sur sa situation monopolistique sur plein de sujets, que ce soit e-message, etc. C'est intéressant parce que je trouve qu'on vit une période un peu chahutée pour Apple, un peu en retard sur l'IA, l'innovation des iPhones qui, depuis quelques années, patine un peu. Alors, il y a le Vision Pro qui est quand même une nouveauté, mais la réglementation qui évolue et qui commence à enquiquiner sérieusement Apple sur son modèle et sur son intégration logicielle matérielle. Est-ce qu'Apple se sent un peu à la croisée des chemins, là, ou est-ce que finalement, plus de peur que de mal? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, c'est une conséquence logique de la grandeur de l'entreprise aujourd'hui. Le Apple de 2024 n'est pas le Apple de 2010 et c'est devenu une super entreprise géante qui doit tout calculer sur 4 ou 5 ans en avance parce que les chaînes logistiques sont hyper importantes et qui doit contrôler justement tout ce mécanisme-là. Ce que je trouve intéressant, alors ça n'engage que moi, c'est que je comprends les motivations du Digital Markets Act européen. Je comprends pourquoi on veut réguler les géants de la tech, pourquoi on veut mettre ce cadre. Mais je comprends beaucoup moins là où veulent aller les États-Unis. Déjà parce qu'ils ciblent une seule entreprise. On ne parle pas d'une régulation, mais on parle d'un procès à l'encontre d'une entreprise. Et parce que les choses qui sont reprochées par le département de la justice américaine, parfois, ça frôle un petit peu
la mauvaise foi,
le complotisme, mais oui, un peu une forme de mauvaise foi. C'est vraiment l'idée que les gens, enfin, on lit, hein, il y a un document de 88 pages qui a été publié. Il y a
qui est assez sévère d'ailleurs. Hein.
C'est très sévère. Il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, quand on dit il y a des choses que l'Europe n'a pas abordées, qui sont comment se fait-il que l'Apple Watch ne fonctionne pas sur Android et pourquoi les autres montres n'ont pas accès aux mêmes fonctions que l'Apple Watch sur iPhone. En effet, peut-être que c'est intéressant, peut-être qu'il y a une piste à étudier là-dessus.
Il y a iMessage aussi qui est intéressant.
Il y a iMessage intéressant, c'est un point qui concerne les États-Unis.
Il y a pas que, tout n'est pas acheté dans les considérations du gouvernement.
En fait, à en lire ce document et à écouter Merrick Garland, qui est le procureur général des États-Unis, Apple est une entreprise, pour eux, on achète un iPhone parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a jamais la supposition que des gens achètent un iPhone parce qu'ils ont envie d'avoir un iPhone. On part du fait que tout ce qu'a créé Apple est une imposition et qu'aujourd'hui, la concurrence ne peut pas émerger parce que les gens sont forcés d'acheter du Apple. C'est ça, on est forcé d'acheter du Apple parce que iMessage, on est forcé d'acheter du Apple parce que Apple Pay. On est forcé d'acheter du Apple parce que Android n'a pas la même interface que l'iPhone. Donc, passer sur Android, c'est compliqué pour certaines personnes. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi certainement une part importante, majeure des utilisateurs. Je crois qu'Apple est l'entreprise avec le plus gros taux de fidélité dans le monde du smartphone. Qui reste sur un iPhone, de satisfaction aussi. Ouais. Qui reste sur un iPhone parce qu'elle aime l'iPhone. Et ce procès-là américain voudrait démanteler, voudrait prouver qu'Apple est dans une situation de monopole et démanteler tout ce qui fait que l'iPhone est un iPhone pour justement permettre à toute la concurrence d'émerger. Mais je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. Et quand on voit certains précédents aux États-Unis, quand on voit la force d'Apple, notamment avec ses avocats, je me demande si ça ne va pas être du temps perdu qui va juste aboutir à un « non, ce n'est pas un monopole ». Ils ont prouvé assez miraculeusement que l'App Store n'était pas un monopole devant la justice américaine. Alors franchement, j'ai du mal à comprendre comment ils en sont sortis là-dessus. Donc comment on peut prouver que l'iPhone est un monopole quand il n'a que 50% du marché ?
Olivier.
Je suis assez d'accord avec toi, mais alors déjà, on peut s'interroger effectivement sur les réelles motivations. Elles sont doubles. D'abord, il faut savoir que le département et la personne que tu décrivais, ce sont des élus. Hein.
Tout à fait, oui.
Donc, c'est une formidable tribune pour eux. C'est une enquête qui a été ouverte il y a 4 ans sous Donald Trump. Voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Et puis, la finalité de tout ça, il faut rappeler quand même qu'aux États-Unis, il y a quand même une loi qui est la loi antitrust, qui a nécessité de casser des géants du pétrole dans le siècle dernier, de casser des géants des télécoms, Bell qui est devenu AT&T. Bref, est-ce qu'il faudrait casser Apple ? Pourquoi ? Est-ce qu'on reproche à Apple ? C'est en fait, c'est tout intégré. C'est faire du matériel, c'est des constructeurs d'ordinateurs, de smartphones, faire du logiciel et faire du service. Mais c'est la force d'Apple aujourd'hui de pouvoir intégrer, c'est l'ADN d'Apple. Et c'est ça, moi, qui me gêne. On est en train de critiquer ce qui constitue l'ADN d'Apple. Alors, quand ils font 1 ou 2 ou 3% de marché ou 5% de marché, comme du temps de Steve Jobs, dans les années 90 ou 2000,
on s'en fout.
On s'en fout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand ils font 65% de part de marché, comme c'est le cas de l'iPhone, ça, on a tendance à l'oublier aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a qu'Apple, hein, quasiment. Ah, oui. Parce que Huawei, il n'est pas présent.
Il y a quoi ? Il y a un peu de Samsung, je pense. Un peu de Motorola, je crois, aussi. Voilà.
Oui, en Google, je crois, occupe une place de troisième derrière
Mais
Samsung
c'est vrai qu'Apple écrase tout le monde, quoi.
Mais voilà. Oui, il y a moins de concurrence.
Et automatiquement, ça active la loi antitrust. Si tu as plus de 50% de marché, tu es éligible, entre guillemets, pour tomber sous cette loi. Bien. Donc, la première motivation des États-Unis, je n'ose imaginer qu'Apple veut démanteler Apple, que le département de justice américaine veut démanteler Apple, mais je pense qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Parce qu'effectivement, il y aura soit un accord à l'amiable, soit un procès qui va déboucher sur une énorme amende. Parce qu'ils voient bien qu'en Europe, ça fonctionne. Il y a beaucoup, 18 milliards, le DMA. L'habit de position dominante d'Apple par rapport à Spotify, ils ont passé des milliards.
5,8 milliards, hein, pas 18 milliards.
C'est 5,8 milliards, autant pour moi.
Il y a eu une plus grosse amende il y a quelques années qui dépassait.
Mais 18 milliards, non.
C'était pas, je sais plus, alors peu importe.
Sur
celle de Spotify, oui.
Spotify, 5,8 milliards.
Bon, bref, c'est quand même beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit. Et
vous avez vu, on manipule les milliards, nous, on est comme ça. Hein.
On est comme ça.
On jongle avec les milliards.
Voilà, mais pour revenir à Apple, et ensuite, quand on regarde les points qui sont pointés, justement, qui sont montrés du doigt par le procureur du département de la justice, et c'est un procureur, donc il tape là où ça fait mal. Donc, effectivement, il y a le sujet de l'App Store, mais. Bon, on sent que c'est assez opportuniste par rapport au DMA, mais là, sur ce point, il a plutôt raison. Par contre, expliquer que Amazon a planté le Fire Phone parce qu'Apple est en position de position dominante.
Ouais, c'est un peu bizarre.
Si Amazon s'est planté, c'est que leur téléphone était mauvais.
C'est-à-dire qu'il tape tellement sur Apple dans tellement de directions qu'on en oublie les bonnes raisons de taper dessus. C'est ça le souci.
Et tout ça est un peu trop politique. On est dans un contexte d'année électorale. On est aussi dans un monde aux États-Unis où les démocrates détestent les boîtes comme Apple parce qu'elles sont devenues trop puissantes. Et les républicains détestent les boîtes comme Apple parce qu'elles
sont des
manières de penser. C'est devenu populaire. On l'a vu avec les auditions au Congrès, que ce soit de TikTok, de Mark Zuckerberg, de Sundar Pichai, que c'est populaire de taper sur ces géants-là. Les deux veulent les réguler, mais pas de la même manière.
Est-ce que vous trouvez que c'est aussi le hasard du calendrier que la justice américaine s'intéresse à Apple alors que le DMA vient d'être mis en place en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette petite musique de dire « Ok, le monde change, Apple est bien trop gros, propose des services qui sont beaucoup trop exclusifs à son écosystème et qu'on rentre dans une nouvelle ère finalement. Et que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on a eu déjà des trucs en Corée, il y a des pays aussi où Apple est pointé du doigt. Est-ce que c'est le hasard à votre avis? C'est ça qui est intéressant.
J'y vois plus un lien avec l'année électorale qu'avec le DMA. Sinon, on serait dans un contexte de régulation. Il y a un truc à prendre en compte, notamment sur Merrick Garland. C'était le nommé de Barack Obama pour intégrer la Cour suprême en 2016, sans doute. Sauf que les Républicains avaient bloqué sa nomination en espérant que Donald Trump soit élu. Donald Trump est élu et il a dégagé Merrick Garland. Donc en fait, cet homme-là doit sa carrière à Joe Biden qui l'a sauvé à son retour en lui donnant un poste. Donc il y a une forme de redevance à Joe Biden qui est de lui donner ce coup de pouce, de dire voilà, nous les démocrates, si vous nous réalisez, on va légiférer sur les GAFA, mais on s'accuse, on s'attaque à Apple directement. Donc je pense qu'il y a une forme de big tech versus politique, ce qui est en train de prendre forme aux États-Unis, et que si c'était juste le DMA, on serait plus sur un contexte global, sur toutes les entreprises.
Les caisses
sont vides. Il y a une volonté de taper.
Les caisses sont vides. Donc il faut taper.
Les caisses sont vides aussi, évidemment.
Ceux qui ont les caisses et les poches pleines.
Qui va coûter cher aux contribuables aussi.
Oui, mais ils ne vont pas perdre. Ils vont gagner. Il y aura peut-être un accord à l'amiable, mais je ne m'inquiète pas pour ça. Mais les poches d'Apple sont pleines. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire mais comment on y arrive ? Comment on est arrivé là, quand même, avec Apple ? Ça montre quand même une attitude qui est quand même particulière d'Apple. C'est-à-dire, quand on dit Apple, effectivement, intègre tout, logiciel, matériel, service, et ça, c'est le mantra de Steve, et c'est le mantra encore de Tim Cook, en disant, mais on reste dans l'esprit start-up, on veut tout intégrer, tout maîtriser. Quand on est une multinationale qui pèse autant de milliards, on ne peut pas être aussi psychorigide.
Non,
parce qu'Apple est psychorigide. C'est le problème. On est un développeur, on a un problème, on s'adresse à qui ? On est un artiste, on est sur Apple Music, on s'adresse à qui ?
Oui, il y a une espèce de...
Donc il faut arrêter de penser qu'on peut tout maîtriser de A à Z. Et j'espère qu'au moins, c'est mes aventures apprendront à Apple à être un peu moins psychorigide.
Ouais, c'est clair.
En tout cas, Apple va changer. Apple a déjà commencé à changer dans l'Union européenne. Ils n'ont pas très envie de le faire, ils traînent les pieds, mais ils sont en train de changer.
Et vu qu'ils sont déjà dans le collimateur de l'Union européenne.
De l'Union européenne.
Parce que l'Union européenne estime que leur DMA ne va pas assez loin.
La Commission, oui.
Elle a ouvert une enquête pour ça, oui.
Ouais.
Et quand tu vois les bâtons qu'ils mettent dans les roues autour de l'App Store, les taxes à l'entrée, alors ils les ont retirées, il fallait déposer un million d'euros sur un compte. Et puis, on ne le met plus. Et puis derrière, si vous vendez plus de 1 million
d'applications,
il faut verser 50 centimes.
Preuve, on a combien d'App Store concurrents lancés un mois après le DMA ? Zéro.
Ça arrive, il y en a deux plus.
Oui, ça arrive, mais il n'y en a aucun lancé.
Epic
est déterminé.
Il y a cette app aussi qui a fait.
Epic, moi j'ai du mal à y croire. Parce qu'ils vont dépasser le million de téléchargements. Donc est-ce que tout ça n'est pas un coup de bluff et au million, ils vont se retirer pour faire un cinéma ? C'est bizarre parce que d'un côté, ils attaquent Apple publiquement et de l'autre, ils annoncent qu'ils vont lancer un truc.
Tout ça aussi, c'est sur le temps long parce que ce DMA, c'est quand même une sacrée. un sacré carrefour, en fait, un nouveau chemin qui est ouvert. Ça va mettre du temps, parce que je pense que, évidemment, les acteurs qui voudraient lancer un App Store sont en train de regarder la viabilité du truc, techniquement, est-ce que Apple répond aux questions, etc. Ça va prendre du temps. Ça va être intéressant, par exemple, l'année prochaine, de voir si, effectivement, tout se démarre.
Et est-ce que ça sera étendu à d'autres territoires ? Il y a plein de questions.
Bon, comme pour le RGPD.
On fait un petit break, les amis ?
Allez.
Et on va encore parler d'IA et de smartphone, mais cette fois-ci avec Samsung. Ce sera notre deuxième partie de Quoi je mêle avec Olivier Frigara, Nicolas Lelouch. Vous restez avec nous, bien sûr. On revient tout de suite.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.